RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Dorian. Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr. Notre Dream Team du jour est composé de Fred Weiss, de Stephen Brun et de Geoffrey Charpille. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut mon petit Pierrot.
Vous allez laisser la parole un peu à Steve là, vous allez arrêter de lui couper la parole comme toutes les semaines parce qu'aujourd'hui on va parler de Dallas. Dit Dallas Mavericks, c'est un spécial Kyrie Irving avec ce gros trade Irving qui quitte Brooklyn pour aller à Dallas. Ouais. Bon, il perd un peu en qualité de vie, hein, on va pas se mentir, mais en termes de basket, c'est peut-être mieux.
Ça peut être mieux.
Ah, ça sera mieux, non ?
Ça peut être mieux.
Bon, toujours très prudent, Fred. Hein. Alors, le programme, Kyrie Irving, donc avec Irving, Dallas devient-il un candidat au titre ? Un contender, comme on dit en américain. Et puis, bien sûr, on s'intéressera aussi aux Nets. Durant Irving, Harden, l'échec était-il prévisible ? Faites attention, essayez de vous souvenir de ce que vous avez dit il y a 3-4 ans quand même. Hein. Parce que...
On est bêtises.
On a les bandes.
Il y en a qui ont de la mémoire.
On a les bandes.
On peut avoir les bandes, absolument. C'est tout à fait faisable. Ça,
mais ça marche. Oublie pas de me le dire avant.
Oublie pas ce que toi t'as dit aussi.
Et moi, je sais très bien.
Moi, lui, c'était une saucisse, donc c'est bon, ça va.
Et puis, dans la partie historique, vous me direz quel super team le plus déçu dans l'histoire. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'agrégations de grands joueurs qui n'ont pas marché. Et vous allez me dire laquelle vous a le plus déçu. Dans le quiz, eh bien, nous ferons la part belle à Kyrie Irving. C'est un quiz spécial Kyrie Irving, non pas ni Nets, ni Dallas, ni trade, ni quoi que ce soit.
Ni Terre.
C'est plat, un. Bah, peut-être qu'on peut parler de platitude de la Terre, c'est possible hein, dans un quiz spécial Kyrie Irving. T'es platiste, toi, Fred ?
Évidemment.
T'es complotiste ?
Évidemment.
Bah alors, t'es favori pour le quiz. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est parti, Basket Time, tous les mardis en podcast. Il y a eu un gros trade cette semaine et ça peut changer la donne pour le titre NBA.
News involves Kyrie Irving, who according to Woj is expected to take his physical today in Dallas. Mavericks get Irving and Markieff Morris. The Nets get Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, an unprotected 2029 first round pick and 2 second round picks.
Dan, the Nets and Mavericks really started talking seriously on Sunday. I think it was harder for Brooklyn to do a one-on-one deal with the Lakers.
Well, the first thing that struck out to me was I think this was almost felt like a little bit of a panic move on the part of Dallas.
Alors donc, il y a eu un gros trade avec le départ de Kyrie Irving à Dallas. L'un des meilleurs meneurs de la NBA rejoint Luka Doncic, un des candidats au titre de MVP. Donc ça fait quand même saliver, en tout cas ça peut faire saliver les fans de Dallas. C'est pour ça qu'on se pose cette question, est-ce que Dallas devient un candidat au titre ? Mais avant d'en parler, tu vas nous détailler ce big trade entre Dallas et Brooklyn, Geoffrey.
Oui, Pierre, Kyrie Irving, il avait demandé à partir en fin de semaine dernière et c'est dans la soirée du dimanche 5 février que son vœu a été exaucé. Kyrie Irving a donc été envoyé aux Dallas Mavericks. Alors, selon ESPN, les Los Angeles Lakers étaient également sur le coup, mais l'offre des Texans était plus forte que celle des Californiens. Il faut rappeler qu'Irving avait demandé à être transféré car sa volonté d'obtenir une prolongation de contrat au montant maximum avait été refusée par les Nets. C'est donc sous les ordres de Jason Kidd que la star va tenter de se relancer. Et pour convaincre les Nets, les Mavericks ont donc envoyé Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et plusieurs choix de draft dans la balance, dont notamment un premier tour en 2029 et 2 second tours. Kyrie Irving ne part pas tout seul. Pierre, il amène avec lui Markieff Morris qui va également dans l'équipe de Mark Cuban. Et si sur le papier, Kyrie Irving reste un renfort de poids avec près de 27 points de moyenne cette saison, ses affaires extra-sportives ne peuvent faire de lui qu'une promesse, non une garantie pour Dallas, pour que les Mavericks puissent jouer le titre à 100%. Lui qui n'a gagné qu'une seule série de play-offs avec Brooklyn chez les Nets.
Et alors, l'offre de Dallas, ok, mais celle des Lakers, je t'ai vu faire la moue, Fred, quand tu disais, quand Geoffrey disait que Dallas, c'était mieux. Ben, t'es pas d'accord ?
Alors, je sais pas si c'était mieux ou pas, mais en tous les cas, on a vraiment l'impression que les Nets se sont dit, ok, on va te trader, on veut plus que tu sois là, parce que concrètement, tu veux plus faire partie du projet.
Parce que c'est pas équilibré
comme move. Mais on n'a pas envie que t'ailles où t'as envie d'aller, en fait. On va t'envoyer ailleurs. Enfin, en tous les cas, c'est le ressenti que j'ai. C'est, ok, tu veux aller à Los Angeles, parce que honnêtement, tout le monde commence à parler de...
Il récupérait qui Westbrook dans l'autre sens enfin,
ouais, et deux premiers tours de draft.
Ouais, après, qui veut de Westbrook aujourd'hui ? C'est peut-être ça la question.
Bah, il en passe contrat aussi, lui.
C'est ça la problématique. Je crois que Brooklyn ne voulait pas Westbrook.
Bah, c'est ça.
Mais il ne voulait pas Westbrook, mais apparemment, de ce qui se dit, c'est qu'il ne voulait non plus pas exaucer le souhait de Kyrie.
Je crois qu'il voulait des joueurs encore sous contrat, Brooklyn. Est-ce qu'il y a le cas avec Finney-Smith et Dinwiddie qui sont encore sous contrat pour la saison prochaine ?
Donc, c'est un truc sérieux, quoi.
Oui, il voulait pas des mecs qui arrivent et qu'au bout de 6 mois, ils se barrent.
Sachant qu'au départ, Dinwiddie, il était parlé pour un autre trade encore pour récupérer d'autres joueurs avec les Raptors. Donc Dinwiddie, c'était qu'une monnaie d'échange aussi.
Dinwiddie, qui est quand même un bon joueur. Les Nets,
bon joueur.
Mais on oublie que Dinwiddie a fait partie de la renaissance des Nets avec Kenny Atkinson, avec Jarrett Allen, avec Caris LeVert, l'équipe qui a noyé ce fiasco Garnett et compagnie. La nouvelle génération est là et après ils ont tout fait péter. Lui, il a explosé comme un popcorn avec l'arrivée de Durant, Kyrie Irving, James Harden et compagnie. Donc là, il retourne au bercail et je crois qu'il est plutôt content.
Mais alors, si on parle de Dallas, est-ce que ça fait de Dallas un prétendant au titre? Dallas qui fait quand même une belle saison dans le sillage de Doncic qui est phénoménal. Dallas, c'est quand même cinquième hein, et pas très loin de la deuxième place.
Ouais, pas très loin de la douzième aussi.
Non mais soit, bien sûr, mais tu peux.
Ah oui, mais le classement est tellement serré, Pierrot, que tu peux pas
c'est la problématique,
évincer ce qui passe en dessous aussi.
Oui, c'est vrai, mais c'est quand même un move ambitieux de la part de Dallas. C'est pas un move d'équipe qui se contentera d'une qualification en play-off, non?
Mais de toute façon, il fallait faire quelque chose parce que cette équipe, en l'état actuel des choses, elle allait pas être championne NBA. Je suis même pas sûr qu'elle fasse aussi bien que l'année dernière en allant en finale conférence. Voilà, elle allait faire entre 5 et 8, faire un petit tour, peut-être un play-in et compagnie, et basta. Donc il fallait tenter quelque chose. De là, en faire des favoris, je crois pas, parce que pour moi, il y a deux grands favoris.
Un prétendant.
Non, mais prétendant, il y en a beaucoup, Pierrot. C'est tellement resserré, il y en a 5 ou 6 des prétendants. Il y a deux favoris qui sont Boston.
Son équipe là tout de suite ça tu vois, bah, ça prend ça, plus aucun risque, ça marche sur la tête des pieds là.
Moi Boston et Milwaukee sont quand même bien au-dessus de toutes les autres équipes. Moi même Denver je les mets dans les prétendants, et Denver c'est une meilleure équipe que les Mavs. Maintenant c'est pour moi, tout le monde dit c'est un énorme risque d'avoir pris Kyrie Irving. Pour moi c'est pas un énorme risque, c'est-à-dire que tu peux que réussir ou si ça marche pas dans 6 mois on se serre la main et t'as libéré du cap space, parce que Dinwiddie c'était 13 millions et Finney-Smith c'était 11, donc t'as libéré, non c'était Dinwiddie c'était 23 et Finney-Smith c'était 11, ça veut dire que t'as libéré 34 millions de cap space. Si Kyrie Irving ne veut pas rester,
ils auraient préféré quand même se débarrasser de Jamal McGee et de Bertans à mon avis,
du coup. D'accord, mais bon là ils ont libéré 34 millions, c'est à dire si Kyrie s'en va à l'été, ils ont 34 millions pour signer une autre superstar. Au moins ils ont tenté un coup et moi j'y crois. Kyrie Irving, Luka Doncic, ça match.
Alors pourquoi ça match?
Pourquoi ça match? Bah parce que déjà
c'est deux joueurs extérieurs quand même.
C'est deux joueurs extérieurs, mais le problème c'est que ça va soulager Luka Doncic et le vrai fléau des Mavs cette saison, c'est qu'ils étaient incapables de gagner un match sans Luka. Ils étaient à 0-7 avant le match dans la nuit de lundi à mardi où ils ont gagné miraculeusement à Utah, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas de joueurs. Ils gagnaient pas un match sans Luka. Là Kyrie Irving va déjà pouvoir soulager Luka Doncic en termes de minutes passées sur le terrain, il va pouvoir se reposer un peu plus et surtout les défenses vont plus être omnubilées par Luka Doncic qui aujourd'hui était doublé voire triplé dès qu'il passait milieu de terrain.
C'est fini déjà, les prises de deux sont sanctionnées direct.
Et puis, Luka Doncic a déjà joué avec un garçon qui prenait pas mal de tirs. Je vous rappelle que l'année dernière, Jalen Brunson en playoff, c'est 18 tirs par rencontre, c'est énorme. Donc il a l'habitude de jouer avec un mec qui est capable de prendre des tirs. Kyrie Irving a déjà joué avec des superstars, s'est déjà adapté aux superstars parce qu'à Cleveland, le deuxième retour de LeBron James, eh ben ça match les deux et il arrive à cohabiter avec une star. Il a déjà cohabité quand James Harden arrive à Brooklyn, ça s'est plutôt bien passé même si les deux n'ont pas joué ensemble. C'est effrayant pour les défenses adverses d'avoir Kyrie Irving et Luka Doncic. Donc pour moi, ça match complètement d'un côté du terrain. Après, on parlera de l'autre côté.
Mais c'est exactement le bémol que j'allais mettre. Alors, oui, ça match les deux, sauf que ça appauvrit leur banc qui est quand même un petit peu fragile du coup. Et de l'autre côté, défensivement, déjà que ça défendait pas, tu perds Finney-Smith, qui était le meilleur défenseur de cette équipe. Et en plus, tu récupères un mec qui est un excellent attaquant, mais qui défend pas une cacahuète non plus. Je ne sais pas si tu gagnes vraiment au change, c'est un vrai risque. Ça va être des matchs en 150 points et ça sera la meilleure équipe qui va gagner. Sauf qu'encore une fois, au niveau du banc, c'est un peu
150 points, sauf s'ils tombent sur une équipe défensive qui impose son jeu.
Oui, mais c'est ça.
Jeu.
Ce que je veux dire, c'est que défensivement, ils sont déjà la 24e équipe défensive. Tu perds ton meilleur défenseur. Je ne suis pas sûr que ça rassure vraiment de ce point de vue-là.
Donc pour toi, Steve, ils sont quand même renforcés. Pour toi, Fred, tu n'es pas sûr?
Oui, parce que en fait, ils jouent avec un pace tellement lent qu'ils prendront pas 150 pions les Mavs. Et que t'es pas à l'abri parce que Finney-Smith, il va être remplacé par Josh Green, qui est un très bon joueur, un Australien, qui a été bon d'ailleurs cette nuit et qui a des qualités pour défendre aussi.
Mais qui vient d'où celui-là?
Pardon?
Il vient d'où celui-là?
Il était drafté par les Mavs il y a 3 ans, 18e position. Je crois qu'il a mis 30 cette nuit, qui est un grand ailier capable de défendre. Et surtout, la trade deadline n'est pas finie. Ils peuvent encore faire des moves.
Ouais, mais s'ils font de mouvements, oui, mais je parle en l'état, oui. Effectivement, quant à Kyrie Irving, il va te soulager Luka Doncic, qui sera peut-être plus performant sur les quatrièmes cartons, parce qu'il aura moins besoin de porter le ballon pendant tout le match. Mais déjà, il faut qu'ils trouvent leur leur rythme et leur pacing sur le terrain.
Quand tu mets deux gros joueurs ensemble, bah, je suis pas inquiet.
Ils jouent pas à la même vitesse, hein, les deux.
Je suis pas inquiet sur la. Et puis on oublie que c'est un big three en fait, les Mavs. On oublie Christian Wood en fait.
Et ça, c'est pour moi, c'est la deuxième problématique, Christian Wood, qui avait demandé plus de responsabilité. Quand t'as Kyrie Irving qui arrive, je suis pas sûr qu'il en obtienne beaucoup.
Christian Wood, il va se contenter. Pourquoi le vrai problème,
il s'en est plein. On est d'accord.
Pourquoi tu dis le vrai problème, il est là?
Parce que Steve l'a dit, on parle beaucoup de ce big two entre Luka Doncic et Kyrie Irving, mais pour moi, les Mavs, avec Christian Wood à l'intérieur, c'est un big three. Et là, il va être, je ne sais pas comment ils vont s'organiser avec Doncic et Irving, mais Wood, ça peut être un très bon joueur, mais faut qu'il ait des ballons à l'intérieur pour qu'il puisse en faire quelque chose.
Kyrie Irving et Luka Doncic sont deux passeurs d'exception. Oui, donc, défenses vont venir doubler sur Kyrie ou Luka Doncic, je peux te dire que Christian Wood, il va mettre ses 20 pions par match parce qu'ils vont le gaver de ballons. Et dans un big three, on sait qu'il y a toujours un mec qui doit sacrifier.
Bien sûr. Il y a eu Draymond Green
s'est sacrifié. Chris Bosh s'est qualifié,
complètement d'accord, mais je te dis, Wood s'est déjà plaint avant que Kyrie arrive, qu'il voulait être plus
traité,
impliqué, etc.
Son nom est dans les rumeurs de trade, donc s'il n'est pas content, Christian Wood, retourne dans les bois, Robin.
Il finit son contrat, il est free agent, je crois, en plus. Hein,
oui. Wood.
Donc peut-être qu'effectivement, il fera partie des tradés.
Je pense que c'était la seule solution pour les Mavs s'ils espéraient quelque chose cette saison.
C'est bien un move pour être champion tout de suite. C'est bien ça, d'accord. Ah,
oui, soit pour être champion tout de suite, soit pour faire matcher les deux et que ça se passe plutôt bien et d'éventuellement prolonger Kyrie Irving pour le futur. C'est quoi si t'as le choix entre te contenter d'un deuxième tour de playoff, de vivoter, ou de dire, tiens, on a la possibilité de faire Kyrie Irving, et pourquoi pas, si ça match, de faire une énorme saison.
Ça se tente obligatoirement.
Moi, j'ai l'impression que l'équipe qui faisait le meilleur marché, c'est celle qui récupérait Kyrie Irving, quoi qu'il arrive, parce que quand il y a un joueur de ce calibre qui est disponible, il faut le prendre.
Bah, évidemment.
Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la bonne question, c'est ce qu'ils deviennent des candidats au titre, évidemment.
C'est un risque.
Après,
pour moi, c'est un risque.
Il y a des risques, des avantages, des inconvénients, mais évidemment que tu es plus sérieux quand tu as Kyrie Irving que quand tu as Dorian Finney-Smith, hein.
Évidemment.
Ou Spencer Dinwiddie en l'occurrence.
Ne chie pas sur la tête de Dorian Finney-Smith.
Après, moi j'ai une interrogation.
Très bon défenseur.
C'est pas la question.
Après, il y a quand même une interrogation, la capacité de Luka Doncic à pouvoir partager le ballon avec une immense star. Il y a eu Porzingis, ça s'est pas forcément bien passé. Il le fait depuis des années avec l'équipe de la Slovénie, avec les frères Dragic.
Pas la même qualité de joueur quand même. Hein. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Kyrie Irving, il va pouvoir faire des choses, il va pouvoir être à la création, ce que Porzingis n'était pas capable de faire.
En ce moment, Doncic, dès qu'il passe le milieu de terrain, il est trappé. Donc j'ai pas de doute là-dessus, mais... Est-ce que vraiment tu tentes les trappes maintenant?
Avec Kyrie Irving sur le terrain, tu tentes des trappes?
Il a été consulté, Luka Doncic, sur le trade de Kyrie Irving.
Bien sûr.
Ils lui ont demandé si ça lui plaisait comme truc. Et je pense que Luka Doncic, s'il a le choix entre jouer 38 minutes et devoir supporter l'attaque des Mavs à lui tout seul, mais de sortir au deuxième tour des playoffs, ou avoir un mec avec lui hors norme qui peut lui faire passer un cap et être champion NBA. Ouais, le Slovène, il est quand même suffisamment intelligent pour faire le bon choix. Il va être capable de s'adapter.
Dernière question.
Oui, mais le questionnement, il est quand même sur Kyrie Irving. Est-ce qu'il est capable d'être numéro 2 derrière un gamin de 23 ans?
Dernière question, c'est quelle est l'ambition de Kyrie Irving, qui voulait donc son contrat max, c'est pour ça qu'il est parti, qui ne signera pas pour autre chose, que ce soit à Dallas ou ailleurs? Est-ce que c'est pas...
Et c'est ce qui a bloqué aussi les Lakers, c'est parce que s'ils accueillaient Kyrie Irving, ils ne voulaient pas lui donner 4 ans les Lakers, ils voulaient lui donner 2 ans et matcher le contrat de LeBron James, sauf que lui, il voulait pas lâcher l'affaire Kyrie Irving.
Donc, mais Dallas parle déjà de le prolonger 2 ans pour 80 millions. Hein.
Oui, mais parce que Lucas, il se contraint aussi encore pendant 2 ou 3 ans.
Oui, mais est-ce que ça va lui convenir? C'est pas sûr non plus. Mais
ça lui convient pas, on le raccompagnera à l'aéroport.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a d'autres doutes quand même sur quelle est lui son implication dans ce projet et sur
c'est le garçon le moins fiable de la ligue de façon Kyrie Irving.
Voilà. Il a 30 ans.
Il est arrivé à Cleveland, il a demandé son départ de Cleveland alors qu'ils étaient double ou triple finaliste avec LeBron. Il arrive à Boston, il fait un speech devant tout le monde, je promets de rester là, de prolonger, quelques semaines après il se barre. Là à Brooklyn, des dramas, il y en a eu plein. Donc c'est le mec le moins stable de la ligue. Donc on va pas s'accrocher à un mec là.
Profite de lui le temps qu'il est là et
il
après
a 6 mois, c'est un fantastique joueur de basket. Moi, je suis très excité. Je vois pas qui est pas excité aujourd'hui de voir l'association Kyrie Irving, Luka Doncic. Donc, profitons de ça. Et voilà, on verra où
alors
on va
passer,
que pourra.
On va passer aux Nets, puisque les Nets n'ont pas trop le choix de lâcher Kyrie Irving. Le projet n'a pas eu le temps de démarrer et qu'il s'est arrêté. Basket Time, tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On va donc changer de conférence. The Rams on blast. Got it. KD with a chance for a 3-point play. Kyrie Irving. Doing the same. Quick pull by KD. And it's straight. Kevin Durant always plays at his own pace. Knocks down another jumper. Kyrie Irving. Good to see. Back on the floor. No issue with the hand. As he finishes off the window for the Duke. Irving. Crossover. Inside. Left hand. A magic trick. Alors, les Nets de Brooklyn, donc, voilà aussi une franchise qui n'est pas facile à supporter, j'allais dire, mais à supporter en tant que fan, hein, en tant que supporter. Dernière finale, c'est 2002-2003. Et puis beaucoup d'échecs, beaucoup de projets qui n'ont pas pris. Le transfert d'Irving à Dallas acte donc l'échec de Brooklyn après l'arrivée de Durant et Irving. C'était déjà il y a 4 ans. Suivi 2 saisons plus tard par Harden qui est déjà reparti. L'échec était-il prévisible, messieurs? Voilà une équipe qui nous a fait saliver, fantasmer, un peu comme ce qu'on vient de dire sur Dallas. L'échec était-il prévisible, monsieur Geoffrey Charpie? En 3 saisons et demie, ça n'a absolument pas fonctionné. Hein.
Non, le projet n'a jamais pris, mais le projet était des plus ambitieux, Pierre, peut-être même le plus impressionnant de l'histoire. En 2019, tu l'as rappelé, Durant et Irving arrivent au Nets en compagnie d'un certain DeAndre Jordan. Beaucoup d'espoir à ce moment-là, forcément, dans la franchise de Brooklyn. Deux joueurs All-Star, déjà titrés personnellement, qui veulent écrire leur histoire dans l'un des plus gros marchés de la NBA. L'histoire est belle sur le papier, mais 3 ans et demi après, le mot d'échec peut caractériser cette association. Alors certes, sur les 143 matchs disputés avec Brooklyn, l'apport de Kyrie est très bon, 27 points, 6 passes, 5 rebonds. Mais oui, c'est bien 143 matchs en 3 saisons et demie, trop peu d'assiduité pour Kyrie, de sérieux, de blessures et de prises de décisions très commentées. Il faut se rappeler qu'il y a un an, James Harden, qui était arrivé en janvier 2021, tu l'as également rappelé, Pierre, avait plié les Gaules, direction les Sixers. Il a été lassé du comportement de Kyrie sur la question du vaccin. Au total, les trois joueurs n'auront joué que 16 rencontres ensemble en l'espace d'un an. 16 rencontres où le monstre à trois têtes, a montré qu'il pouvait être indéfendable. Avec un bilan de 13 victoires pour 3 défaites, offensivement, personne ne pouvait rivaliser avec eux. Mais le duo Irving-Durant n'a pas répondu aux attentes. Entre la promotion d'un film antisémite, une nouvelle blessure de Kevin Durant, le navire Nets commençait vraiment à tanguer. Et récemment, il y a eu 7 défaites face aux Boston Celtics dans un match de basket catastrophique. Des Nets amorphes, un KD blessé, un Kyrie plus motivé. Pierre, les Nets sont touchés coulés.
Alors après, je ne sais pas. Bon, c'est sûr que 4 ans, c'est long. Hein. Mais ils ont quand même eu particulièrement
ils ont joué
de
beaucoup de malchance. Oui,
beaucoup de malchance avec,
des blessures longues, mais déjà de la première année. Il faut se rendre compte quand même que KD n'a pas joué cette première année. Donc tu commences un projet avec 2 têtes d'affiche énormes et t'as KD qui joue pas. Donc on pouvait se poser les questions qu'on pouvait se poser, c'était est-ce que KD était capable de revenir à son meilleur niveau déjà?
Ça, il l'a fait.
Et ça, oui, mais il l'a fait, sauf qu'au départ, t'es pas censé y croire. Il est plus tout jeune. Il avait une blessure quand même assez conséquente. Déjà tu pouvais avoir ce premier questionnement. Et ensuite, Kyrie Irving, c'est quand même compliqué. Hein. C'est compliqué comme mec, quand même. Hein.
Alors, est-ce que l'échec était prévisible selon toi, Fred?
Alors, prévisible, bien malin celui qui dira que c'était prévisible. Mais en tous les cas, c'était excitant sur le papier.
Parce que l'association était belle.
L'association était magnifique. Les deux avaient l'air très motivés d'y aller. Sauf que la problématique, les blessures, etc., ils ont très peu joué ensemble, finalement. Finalement, ça n'a rien donné. Et même James Harden a été démotivé par le comportement de Kyrie Irving. James Harden, qui n'a quand même pas la meilleure hygiène de vie pour un basketteur, qui se dit « Ah non, je ne peux plus jouer avec ce mec-là, il n'est pas assez sérieux. » Ça fait un peu flipper quand même.
Après, non, c'était pas prévisible. C'était même très excitant et ça l'a été excitant. On se rappelle qu'au mois de décembre, Kyrie Irving, Kevin Durant, c'est 12 matchs gagnés de suite. Le binôme est inarrêtable et Brooklyn est la meilleure équipe NBA. Donc ce binôme-là, le peu de temps qu'il a existé, il a été effrayant parce qu'il a existé et tu t'aperçois que ces deux joueurs-là ensemble, c'est peut-être le meilleur binôme de la Ligue parce qu'ils sont trop forts. Maintenant, il y a quand même un point d'interrogation sur cette franchise parce que tu te rends compte que Harden a demandé un transfert, que KD a demandé son transfert cet été et là que c'est Kyrie Irving qui demande son transfert. Donc est-ce que c'est une problématique de joueur ou c'est une problématique de franchise? Moi, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. James Harden.
Les deux derniers que tu as cités, c'est pas les mecs les plus stables de la NBA non plus.
Oui, mais après, Kyrie Irving fait l'effort de draguer KD pour qu'il vienne à Brooklyn, KD vient. Je me dis, mais les mecs veulent se séparer. C'est quand même bizarre. Alors, il y a l'instabilité chronique de Kyrie Irving, mais les déclats de James Harden quand il est arrivé aux Sixers, c'est quand il fait un bilan des Nets en disant ça manquait énormément de structure à Brooklyn. Et aujourd'hui, quand je vois KD a demandé son transfert et que Kyrie est transféré, je me dis que j'avais pas tort. Est-ce que c'est moi vraiment le lâche qui ai quitté le Big Three maintenant que tout le monde veut se barrer? Maintenant, l'association, elle était belle, hein. et même le Big Three avec James Harden, où il était excitant, mais on l'a quasiment
de l'histoire certainement.
Exactement, mais on l'a quasiment pas vu.
Ils ont joué 16 matchs. Hein.
Ils ont joué 16 matchs ensemble. C'est dingue.
Et tu t'aperçois aujourd'hui avec ce qui se passe, Pierrot, à Brooklyn, que la plus grosse erreur de Kevin Durant, c'est d'avoir quitté les Warriors. Donc.
Ouais, mais après, ça a été son choix, ça se respecte parce qu'il voulait.
Non, mais il voulait gagner. Il voulait être le vrai leader d'une équipe. Hein. Il voulait amener une équipe jusqu'au titre.
Il l'a amené jusqu'au titre, les Warriors. Il aurait pu continuer à les
amener. Oui, mais il est arrivé aux Warriors qui était déjà une équipe qui fonctionnait. Là, il voulait créer de toutes pièces quelque chose pour son héritage, tout simplement.
Donc, moi, je suis triste d'avoir vu parce que ce que j'ai vu au mois de décembre, Pierrot.
Et est-ce que, alors, est-ce que les Nets, le board des Nets ne peut pas s'accrocher, c'est-à-dire empêcher le transfert de Kyrie Irving, quitte à le perdre à la fin de l'année? C'est-à-dire, soit tu veux partir, mais nous on y croit encore.
Mais lui, il a menacé de pas jouer, lui, non?
À partir du moment où lui demande son transfert, c'est compliqué d'aller.
Non, mais Kyrie Irving, il est complètement fou. Lui, il va pas jouer. Il va rien faire, il va être démotivé complètement. Et là, il vaut mieux le trader, il vaut essayer de gagner quelque chose.
Et là, on ouvre un débat sur la NBA qu'aujourd'hui.
La puissance des joueurs.
La puissance des joueurs, et c'est le joueur qui a pris le pouvoir dans cette ligue. Pierrot, Anthony Davis avait demandé son transfert au Pelicans s'il voulait plus jouer. Il y a un paquet de mecs aujourd'hui. James Harden a demandé son trade de Houston en loupant le training camp. Aujourd'hui, les joueurs ont trop de poids et trop de pouvoir, donc il faudrait essayer de rééquilibrer ça. Mais si tu dis, si Joe Tsai là, de Brooklyn dit à Kyrie, non, je veux pas te transférer. Ça veut dire que tu t'exposes encore une fois un mec qui veut plus jouer, qui veut pas être là, et tu flingues ton collectif plutôt que d'essayer de récupérer le joueur.
Faire semblant.
Joueur.
On va te trader, mais on a trouvé personne. Désolé, t'es obligé de rester.
Non, mais avec certains joueurs, tu peux jouer un petit peu en disant, écoute, on va pas te trader, etc. Sauf que Kyrie, lui, ils sont fous de tout, donc il va pas jouer. Il l'a prouvé quand il s'est pas fait vacciner. Le mec, on lui a dit, il faut que tu te fasses vacciner, etc. Il avait des convictions, il a continué après, ces convictions-là.
Après, Brooklyn, si KD n'est pas transféré avant la trade deadline, c'est une bonne petite équipe de basket.
C'est ça là où
l'autre
question.
C'est une bonne petite équipe de basket.
Mais ça commence à jouer mieux quand même en plus.
Ça joue bien. Ils ont un protecteur de cercle, Nick Claxton, qui joue très bien, qui est spécialiste du lob. KD est la superstar de cette équipe-là.
Claxton dans le trafic, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Ils ont Finney Smith et Royce O'Neal, qui sont des 3&D qui peuvent défendre. Ils ont Cam Thomas, qui donne 91 points en deux matchs. En l'absence de Kyrie Irving, il avait 44 et 47. Donc ils ont des mecs pour mettre des points.
Sumner qui est pas mal aussi.
Vous voyez, ils ont encore cette Curie, ils ont Ben Simmons, bon, qui reste quand même malgré tout un joueur de basket même s'il est blessé. Méfie-toi que Brooklyn soit pas finalement le grand gagnant de ce trade là si KD reste, bien sûr.
La décision, c'est KD. Oui. Si KD décide de rester, effectivement, je pense qu'ils sont gagnants dans ce trade.
La trade deadline, c'est ce jeudi à 21h.
Parce qu'on oublie quand même que le plus fort de ce Big Three, ça reste quand même Kevin Durant.
Exactement.
On est d'accord.
Bien sûr.
Donc c'est lui la pièce maîtresse. Donc a priori, Brooklyn n'a pas encore tout perdu. Évidemment, si il a demandé à partir là ou pas?
Non, pas encore. Il y a Phoenix qui se renseigne en disant peut-être que KD va vouloir se barrer si tout le monde se barre. Donc,
on récupérait Chris Paul, les
Chris
Nets.
Paulus. Joe Crowder.
Ça me fait rire parce que le pauvre Chris Paul, il est encore en échec presque.
Ouais, après s'il récupère DeAndre Ayton, Chris Paul et Jay Crowder contre KD,
oui.
Ça vaut le coup.
Parce
qu'on sait que DeAndre Ayton à Phoenix, ils sont ensemble, mais bon, c'est comme s'ils n'étaient pas ensemble.
Et pourquoi?
Parce que c'est mal passé, ils lui ont pas filé sa prolongation max. Je crois qu'il y a deux mondes, ils ne se parlent pas avec Monty Williams.
Ça arrive dans les couples parfois, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble.
Ça arrive.
Ouais, mais ça finit jamais bien.
T'es sûr? Il a une longue expérience. Attention, parce que il est très bon sur le basket, Fred, mais en termes de conjugalité, il peut vous donner des conseils.
De chinage,
ah oui, je suis
des conseils, je sais pas, mais son expérience, en tout cas, elle peut être précieuse. Bon, donc Brooklyn, c'est pas encore complètement un fiasco. À voir ce qu'ils vont faire cette saison. Est-ce que vous imaginez un scénario dans lequel Brooklyn peut taper Boston et Milwaukee, les deux meilleures équipes de l'Est?
Non.
Non? Ça te paraît impossible, Jojo?
Quand vous avez Kevin Durant dans une équipe, je ne dirais jamais que c'est impossible.
Peut-être
que
ça peut le libérer, lui. Hein, on ne sait jamais. Hein,
oui.
Si ça match avec Spencer Dinwiddie.
Mais surtout que les Nets disent qu'ils vont encore un peu, qu'ils vont essayer de bouger avant la trade deadline.
Qu'est-ce qui leur manque, selon toi?
Pour moi, il leur manque un deuxième pivot 5 protecteur de cercle, déjà. Ouais.
Et peut-être un meneur vétéran qu'ils n'ont pas derrière Spencer Dinwiddie.
C'est tout. Ils n'ont pas besoin d'une autre option offensive.
Ils ont une équipe sérieuse.
C'est une bonne équipe.
Et attention à Cam Thomas, vraiment, comme il le disait, il vient de sortir deux matchs énormes de suite.
Il sort d'où, celui-là?
Il était à Brooklyn, mais le problème, c'est qu'il était perdu dans la rotation. Et le peu de fois où il a joué quelques matchs, on a compris qu'il n'avait pas besoin de boussole pour trouver le cercle.
D'accord, mais comment ça se fait qu'on le découvre aujourd'hui?
Parce qu'il était derrière dans la rotation.
Il était derrière KD, il a quel âge? Il a 23, 24 ans.
Ah oui, c'est un jeune joueur. On a fait le tour.
C'est le deuxième plus jeune joueur à enchaîner deux matchs à plus de 40 points, je crois.
Bien, alors on va se régaler.
C'est qui l'autre?
Le deuxième joueur à enchaîner.
Qui est le premier, c'est sa question.
Le plus jeune joueur des Nets, je sais pas, Vince
Carter. Non, pas des Nets, de NBA.
Ah, excusez-moi, je n'étais pas du tout.
Le temps que tu cherches, c'est le
voilà, c'est très bien, parce que là, le temps que je comprenne la question, que ça monte au cerveau, on aurait perdu.
T'imagines si on lui faisait les quiz à lui, il serait mort.
C'est possible, ça, mon cher. Mais pour l'instant, c'est moi le maître de cérémonie, donc c'est à toi que je vais poser des questions tout à l'heure. Avant cela, la meilleure partie, bien sûr, la plus intéressante, souvent, pas toujours, souvent, la partie historique. Quelle big team, quelle grosse association vous a le plus déçu dans l'histoire?
The 2013 Los Angeles Lakers had high expectations. Even though Nash was still an elite playmaker in his last few seasons in Phoenix, it didn't solve any of the Lakers' problems. A couple weeks later, and the Lakers acquired Dwight Howard, the best center in the league, forming their new super team.
The 1998 Houston Rockets. I'm talking about Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, and, yes, Scottie Pippen. The 2013 Brooklyn Nets. The Jets hired former Net point guard legend Jason Kidd as a head coach and received Kevin Garnett, Jason Terry, and Paul Pierce in a trade.
Alors, vous allez me dire quelle big team, quelle grosse association de joueurs vous a le plus déçu. Alors évidemment, c'est impossible d'être exhaustif. On oubliera peut-être que certains qui ont écouté ce podcast vont s'arracher les cheveux en disant mais si, souvenez-vous, à Miami en 75, 76 ou je ne sais quoi. Peu importe. Moi, c'est votre ressenti qui m'intéresse. Steve, tu vas démarrer. Tu vas démarrer avec des très très grands noms de cette ligue.
Ouais, l'équipe des Rockets de Houston qui réalise le back-to-back en 95-96. Alors beaucoup diront, ouais, ils ont bien profité de la retraite de Michael Jordan, certes, mais le joueur préféré de Big Fred, Hakeem Olajuwon, avait mérité d'avoir ses bagouses de champion. Il en a même fait profiter un autre Hall of Famer, Clyde Drexler, qui avait rejoint les Rockets en 94-95. La saison d'après, Jordan est de retour. Ils sont éliminés prématurément parce qu'ils sont sweepés par Seattle, le futur finaliste. Et pendant ce temps-là, il y a un autre garçon qui court après une bague, Charles Barkley, qui est passé des Sixers aux Suns, qui a échoué en finale contre Jordan avec Phoenix en 93 et qui se dit, j'arrive à la fin d'un cycle avec Phoenix, il me faut une bagouze à tout prix, sinon je vais quitter la ligue sans ma bague. Il dit, tiens, je vais faire comme Clyde Drexler. Je vais aller rejoindre Hakeem Olajuwon à Houston. Peut-être que ça va fonctionner. On arrive avec trois Hall of Famers dans la même équipe.
Ils sont encore au top, tous.
Ouais. Hakeem, Barkley, quand même très solide encore du côté de Phoenix. Voilà, sauf que ça prend pas. La mayonnaise prend pas. Ils arrivent un peu sur la jante, 34 et 35 ans. Ils sont trop lents, trop vieux. Ils se font taper par Utah. Barkley loupe 30 matchs la première saison. Il n'y a pas de complémentarité. L'année d'après, ils sont encore ensemble, mais c'est un fiasco. Il y a une défaite au premier tour contre Utah, 3-2. Et donc la quête de bague de Charles Barkley, c'est un échec, puisqu'il repartira d'Houston avec une seule série de play-offs gagnés. Il fera partie de ses nombreux Hall of Famers et stars NBA à n'avoir jamais gagné un titre.
Et qu'est-ce qui était si excitant dans ce trio
parce que t'as Hakeem et Charles Barkley qui jouent ensemble dans la raquette, tu te dis que c'est deux monstres, deux mutants, que c'est injouable, même si Barkley
des légendes.
Sur cette saison, Barkley prend plus de rebonds en moyenne que Hakeem Olajuwon, alors qu'il y a bien 15 cm de moins entre les deux, et que Clyde DeGlide, l'élégant Drexler sur le poste 3, assez excitant. Il y avait un petit peu de Mario Elie, tu dis les trois ensemble, ça doit, parce que c'est ultra complémentaire, un poste 4, un poste 5 et un ailier, et finalement ça prend pas, ils sont trop vieux, ils sont trop lents, la complémentarité ne prend jamais, donc voilà, ça restera un
échec. Enfin, quand t'es trop vieux,
et Charles Barkley, quand il est parti, il a dit au revoir à Drexler qui lui a serré la main avec une bague, il a dit au revoir à Hakeem qui lui a serré la main avec deux bagues, voilà.
C'est comme en foot, si t'associais, je sais pas moi, mettons Messi et Ramos à 34-35 ans, c'est pas sûr que ça marche. Pourtant, sur le papier, c'est
beau, c'est excitant, oui.
Geoffrey, quel big team t'as le plus déçu?
Moi, je vais vous parler des Nets de Brooklyn, QV 2013-2014.
Ah, voilà, une association de malfaiteurs.
Voilà, là, il y avait vraiment des sacrés lascars.
Rappelle-nous les noms, déjà.
Alors, à l'époque, on a du Jason Terry, du Paul Pierce, du Kevin Garnett, du Deron Williams, du Brook Lopez. C'est pas mal du tout, l'effectif semble vraiment taillé pour le titre, sauf que la mayonnaise, elle ne prend pas, mais alors pas du tout. Brook Lopez, il se blesse au bout de 17 matchs pour le reste de la saison. Kevin Garnett, le meilleur ami de Fred, il enchaîne les blessures et les mauvaises performances. 7 points, 6 rebonds de moyenne, il signe sa plus mauvaise ligne de stats en carrière, Pierre. Aucune envie, plus de détente, plus de vitesse. Le grand Garnett des Celtics, il est porté disparu. Paul Pierce fait le strict minimum.
C'est triste.
C'est triste, hein.
Ah oui. Voilà.
Paul Pierce, il fait le strict minimum avec à peine 14 points de moyenne. Deron Williams, il est en régression. Lui aussi, il signe sa pire année depuis sa saison rookie. Et la seule satisfaction, elle vient d'un joueur qu'on n'avait pas forcément venu. Je ne sais plus si vous en souvenez, c'est Joe Johnson, avec notamment 21 points de moyenne à 42% à 3 points en playoff. Car oui, les Nets, malgré tout.
Il y avait Joe Johnson en plus dans cette équipe-là. Ouais.
Absolument.
Un jeune,
c'est
Joe Johnson.
C'est monstrueux, quoi.
Et en fait, c'est le nouveau propriétaire russe, là, à l'époque Prokhorov, qui a voulu faire péter la banque et ramener Brooklyn sur le toit du monde.
Oh, bon.
Totalement. Parce que l'année dernière, l'année 2012-2013, ils s'étaient fait sortir au premier tour des playoffs. Donc là, ils ont explosé le salary cap. Ils sont allés chercher tous ces vieux briscards. Ils se sont fait sortir en playoff au deuxième tour face aux Heat. Ils avaient réussi miraculeusement à passer le premier tour face aux Raptors grâce à un compte de Paul Pierce sur l'une des dernières rencontres. C'était quand même un peu invraisemblable. À l'issue de la saison, Pierre, l'échec est retentissant. Paul Pierce, il est alors agent libre. Il s'envole pour Washington, tandis que Kevin Garnett, lui, sera transféré au cours de la saison suivante. Les Nets ont donc loupé leur saison. Billy King, le general manager, est remercié à l'issue de cette saison. Et à l'époque, ils avaient même hypothéqué leur avenir en envoyant leur pick de draft aux Celtics, qui sélectionneront notamment Pierre, Jason Tatum et un certain Jaylen Brown.
Ah voilà, comme quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces tours de draft.
Ils ont flingué les Nets pendant 4, 5, 6 années.
Voilà, et derrière, ils ont refait n'importe
après,
quoi.
Une fois qu'ils avaient mis le nez à la fenêtre, comme ça, hop, ils ont reflingué une nouvelle fois.
C'est terrible, non mais c'est terrible. Il y a des franchises vraiment qui sont...
Eh oui, c'est pas cadeau.
Je veux dire maudite, mais
c'est dur d'être GM d'une franchise NBA, Pierrot.
C'est très difficile, c'est vrai, on s'en rend compte, avec ces histoires folles. Quelle est la tienne, mon cher Tiffany.
Moi, j'étais ravi d'entendre, j'étais ravi d'entendre mes collègues parler de bons petits joueurs. Moi, je parlais de vrais gros joueurs. je parle des Lakers 2003-2004. Alors, après le tripit des Lakers en 2000-2001-2002, les Lakers sont éliminés en demi-finale par les Spurs. Donc, c'est un peu un drama du côté de Los Angeles. Et on se dit, allez, on va faire les choses en grand. Ils contactent Gary Payton et Karl Malone, qui sont deux potes. Karl Malone qui ira d'ailleurs...
Mais moi, sur la fin, là, quand même.
J'en ai un peu... Ah, laisse-moi y venir. Karl Malone qui dira, bah, j'en ai un petit peu marre du froid. Moi, le show de Los Angeles, ça me plaît bien. On va bien s'amuser. Viens avec moi, Gary. Et donc, finalement, ils vont y aller. Alors, ils sont vieillissants, oui, c'est vrai. Hein. Mais Karl Malone, c'est 20 points, 8 rebonds la saison passée. Mmh. Et Gary Payton, c'est 20 points, 8 passes. Donc, c'est plutôt pas mal.
Pourquoi pas.
La saison précédente, les deux jouent entre 80 et 81 matchs. Donc, ils ne ratent pas beaucoup de matchs. Ils sont pas beaucoup blessés. Les deux signent en plus pour un petit contrat. Hein. 1,5 million pour Malone, cadeau. Et 4,9 million pour Gary Payton. Ça aussi, un peu cadeau quand même à l'époque. Et tout commence magnifiquement bien. Kobe Bryant est accusé de violence sexuelle, d'agression sexuelle. Et donc, il est obligé de faire des allers-retours incessant entre Los Angeles et le Colorado pour essayer de régler l'affaire. Donc ça fonctionne magnifiquement bien pour commencer. Il y a pas mal de blessures du côté de Karl Malone. Gary Payton, il ne va rien capter à l'attaque de triangle de Phil Jackson. Il va être complètement perdu, il sera complètement à l'ouest, il sera très compliqué pour lui.
Et comment t'expliques ça?
Ben, t'as joué toute ta vie un pick and roll à deux, gros, quand il y a un troisième joueur, t'es perdu. Alors,
quand tu passes de George Karl à Phil Jackson, c'est pas tout à fait pareil hein, en termes de tactique. Ces quatre joueurs vont jouer seulement 20 matchs ensemble, et finalement, ben, ça se passe pas si mal que ça. Hein. Ils terminent la saison avec 56 victoires pour 26 défaites, ils sont deuxième à l'ouest. Ils marchent sur Houston au premier tour, 4-1. Ils marchent sur les Spurs, 4-2. Ils battent les Timberwolves de Kevin Garnett, 4-2 également. Et ils se retrouvent en finale contre les Pistons. Et d'un seul coup, les mouches changent d'âne. Parce que tout le monde se dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est les Lakers qui sont favoris. Sauf que les Pistons, c'est Billups, c'est Ben et Rachid Wallace, c'est Prince, c'est Hamilton. Donc c'est du jeu dur, c'est un jeu de col bleu. Et là, c'est du 4-1. C'est quasiment un sweep des Pistons. Résultat, Malone et Payton vont se barrer. Alors Malone n'aura jamais de bague, Payton se rattrapera en allant à Miami et en gagnant une bague avec le Shaq, qui lui aussi va se barrer, parce que l'entente, j'en avais pas parlé au début, l'entente entre Kobe et Shaq, bah ça n'allait plus du tout, c'est très très compliqué. Et finalement, avec le départ de Phil Jackson, l'ère se termine comme ça, sachant que dans cette équipe, il y avait Fisher, Cook, Fox, Horace Grant, et donc les quatre qu'on a cités tout à l'heure, Kobe, Shaq, Malone et Payton.
Donc tu as choisi quand même un projet qui n'est pas un fiasco, puisqu'ils vont en finale.
Ils vont en finale, mais ils n'ont pas les bagues.
Mais qui est décevant parce que quand tu es armé comme ça.
Avec les noms que je viens de citer là.
Tu peux que être champion.
Tu peux être que champion, surtout quand tu tombes contre les Pistons.
Respect quand même à cette équipe de Détroit
qui
est fantastique. Hein.
Bien sûr, fantastique.
Et puis qui a duré pour le coup. Hein.
Et donc, ils ont été durs. Et l'année suivante, je crois que Détroit va jouer contre San Antonio pour les finales et ils perdent contre San Antonio.
Vous avez vu la ganache de Ben Wallace récemment là?
Oui.
On l'a vu à Paris là. Il a changé quand même de Lascar.
Moi, je trouve pas trop. Hein. Il est plus grisonnant, mais.
Il est bien affûté.
Ouais.
C'est impressionnant. Hein.
Très costaud.
Et c'est un des joueurs intérieurs les plus physiques qu'il y ait eu, non?
Ouais. Par contre, les mains pleines de pouces, hein, mon grand.
Ah ouais.
Ah ouais.
Énorme défenseur, mais en attaque.
Airball sur un layup, Ben Wallace.
Très bien, messieurs, c'est un quiz spécial Kyrie Irving dans Basket Time cette semaine. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pour Julien Lepers.
Ma main, Kyrie!
Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Coco-coach.
Coco-coach, absolument.
Il revient plus vite, hein. Tu prends plein de pouvoir. Tac!
Le back-to-back! Ah, une nouveauté exceptionnelle! Alex, il a l'oreille absolue! Alors, on est revenu en arrière sur les jingles, c'est bien.
Oui.
Il est rigolo celui-là.
Il y a de la création de façon hebdomadaire.
Très bien, c'est un spécial Kyrie Irving. Alors, on va démarrer par un tour de table. Vous répondez chacun votre tour, hein. Pas tous en même temps. On démarre, il l'a dit ou il l'a pas dit. Ok.
Mais lui, il est complètement fou, il peut dire n'importe quoi.
Ben, c'est ça qui est drôle.
Il l'a dit ou il l'a pas dit.
Il l'a dit ou il l'a pas dit. On démarre avec toi, Steve. Est-ce qu'il l'a dit, ça, Kyrie Irving? Des sociétés secrètes implantent le vaccin pour connecter les Noirs à un grand ordinateur dans le cadre d'un plan de Satan.
Il
l'a pas dit, mais il l'a partagé. C'est pas de lui,
ah,
ça.
C'est le bouquin,
il l'a partagé, ça. D'un mec encore plus dingo que lui, donc je te donne pas le point.
Oh, c'est dur, ça.
Ah non, c'est pas dur.
Non, si c'est pas lui qui l'a dit.
Pas de lui. Oh, okay.
J'essaie de te défendre.
C'est pas de lui. Ça va mettre Stephen dans son match. Geoffrey, est-ce qu'il l'a dit ? De ce qu'on m'a appris depuis des années, la Terre est ronde. Mais si vous y pensez vraiment, en regardant la façon dont on voit le paysage quand on voyage, pouvez-vous vraiment penser qu'on tourne autour du Soleil, que toutes les planètes s'alignent et qu'elles tournent à des dates spécifiques ?
Il l'a dit.
Bien sûr qu'il l'a dit. Absolument, Geoffrey. À toi, mon cher Fred. Est-ce qu'il l'a dit ça ? La CIA répand des théories du complot à propos de sujets comme le vaccin Covid. Je suis au regret de vous révéler que ce basketteur, Kyrie Irving, n'est qu'un agent de l'État profond.
Il n'a pas dit ça.
Il l'a dit.
Mais il est complètement zinzin, ce mec.
Il a parlé à la troisième personne.
Alors, surtout bah, pour dire, drôle, mais surtout ce qui est complètement incompréhensible, c'est que lui, il affirme que lui, il est un agent, un État créé par la CIA pour annoncer des nouvelles fausses à la population. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus ce qu'il pense vraiment. Complètement Jojo. Ouais,
je sais pas qui est son livreur de weed, mais.
Donc, bienvenue à Dallas, quoi. Hein.
Bienvenue à
bon
Dallas.
Courage, ouais, Marc Cuban.
Je lui demande que je joue au basket, moi.
Maintenant, c'est vrai ou c'est pas vrai à propos de Kyrie Irving, c'est à toi, Steve. Son nom de Sioux, puisqu'il a une ascendance au Sioux, vous le savez, c'est Petite Colline.
Ouais, c'est vrai, parce qu'il fait brûler de l'encens. Il a fait brûler de l'encens sur le parquet avant les matchs en tournant autour du terrain.
Alors, c'est faux, parce que son nom de Sioux, c'est Petite Montagne. Ah, ouais. Hein, t'aurais dû le savoir.
J'aurais bien qu'il était Sioux, mais.
Vrai ou pas, vrai ou faux, il est né en Nouvelle-Zélande, Kyrie Irving, Geoffrey.
C'est vrai.
C'est non, faux, c'est il est né à Melbourne, en Australie. Et bah, vrai ou faux.
Facile.
Ouais, non, mais. Ouais,
vrai
moi,
ou
j'avais
faux,
petite
Fred.
Montagne.
Le 11 septembre 2001, son père, qui travaille au World Trade Center, arrive en retard au travail, échappe à la catastrophe.
Vrai.
C'est vrai, absolument, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai tel qu'il le raconte lui. Hein.
Oui,
il faut peut-être aussi se méfier des versions de Kyrie Irving. Mais peu importe, donc après ce petit tour de table, nous avons un point pour Jojo, un point pour Fred. Steve
et on a bien avancé au niveau du basket. Là.
Et on a rien appris des choses sur Kyrie Irving. Hein.
Ouais. Petite montagne.
Et agent de l'État profond, créé par la CIA pour désinformer la population américaine. Qui a déclaré en 2017, c'était une année différente pour nous. Contre Golden State, nous avons affronté une grande équipe.
LeBron.
Et quand vous ne formez pas une grande équipe et
Kevin
que vous n'êtes pas ensemble, vous êtes facilement battu. Vous êtes battu avant même d'arriver à la salle.
Tyronn Lue.
À propos des Cavs de 2017. Non, pas du tout.
Tristan Thompson.
Non, non plus.
Kyrie Irving.
Kyrie Irving, bravo Steve. Donc alors autant il
okay,
peut être...
donc le jeu c'est la réponse c'est Kyrie Irving, oui. C'est ça.
Alors autant il peut être dingo sur la Terre ronde, autant
il a une belle analyse.
Il a peut-être raison, non, quand même.
Oui, il a une belle analyse basket.
Ça c'était 2017, donc c'était au lendemain, l'année d'après leur titre. Qui parle dans cet extrait?
Well, definitely disappointed.
J'allais dire Kyrie Irving, mais c'est pas lui.
C'est LeBron, c'est LeBron.
Absolument, c'est LeBron. Qu'est-ce qu'il a à dire?
Je suis déçu de ne pas avoir récupéré Kyrie au Lakers. C'était hier, ça. On est à la pointe de l'actu.
On est sur l'actu.
Ce serait mentir de dire que je suis pas triste de récupérer.
Ce serait mentir de dire que je suis pas triste de ne pas le récupérer.
Est-ce un mec avec qui j'ai une belle alchimie.
Mais est-ce que ce n'est pas fou, quand même tous les LeBron qu'il est, qui, quelque part, il critique ouvertement la politique sportive des Lakers. Quoi.
Il critique la politique sportive des Lakers.
Il critique ses coéquipiers.
Russell Westbrook doit être très content d'entendre ça.
Elle est folle, cette déclaration, non, vous ne trouvez pas?
Oui, elle est folle. Après, il dit ben voilà, maintenant, je passe à autre chose. Après, moi, je pense que les Lakers sont obligés de bouger. Avant la trade deadline, ils sont obligés de faire quelque chose, même s'ils ont pris Hachimura. Après, LeBron a raison de dire que s'ils finissent bien la saison et qu'ils sont en play-in ou en play-off, ils ne vont pas être cadeaux à prendre au premier tour s'ils sont tous en forme.
Quel est le nom du film dans lequel a joué notre ami Kyrie Irving en 2018 avec Ned Robinson, Shaquille O'Neal et Chris Webber? C'est Uncle Drew. Qui a vu le film?
Moi.
Alors
au moins 10 fois, moi.
C'est vrai.
C'est Kyrie déguisé en vieillard et qui met à la menthe tout le monde.
Et il y a Shaq, il y a vraiment plein de célébrités.
Il y a Lisa Leslie aussi, je crois.
Oui.
Oui, mais alors.
Ils font une équipe de vieux, en fait. Voilà. Avec des stars, ils font une équipe grimée en vieux et ils tapent les gens sur les playgrounds.
Mais dans des scènes qui sont des sortes de caméras cachées, ou pas?
Ah non, pas du tout, c'est
parce
un vrai film.
Parce que la promo du film, c'était ça. C'était Kyrie Irving qui est sur un playground.
Kyrie Irving a fait des caméras cachées, voilà, où il allait tout seul sur les playgrounds.
Mais ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça
pour son sponsor.
Ah, oui. Je crois que c'était la promo du film. Moi, ces scènes-là, j'avais trouvé ça génial.
Le personnage a été créé comme ça, grâce à son sponsor. Ils ont fait plein de vidéos, ça a marché et ils ont lancé le film.
Mais le film, du coup, c'est bien ou.
Regarde.
C'est comme les blancs. Tu connais les blancs, ça n'a pas sauté?
Ouais.
Bah, c'est un peu dans cet esprit-là, dans l'ambiance-là.
Oscar, il va bien aimer.
C'est le genre de truc.
T'as vu le nouveau Astérix Obélix?
Non.
Non.
Quel rapport avec le basket, quoi.
Non, je sais pas, on était en train de parler de cinéma.
Et on a perdu complet.
Sinon, vous avez vu Babylone? C'est très sympa, bon. Non, mais bon, en tout cas, j'avais trouvé les scènes assez fantastiques quand les gamins regardent le vieillard, ouais. Les humiliés. Là.
Bienvenue dans Cinétime.
Alors, il a repris la main. 3 points pour Steph, 1 pour Geoffrey, 1 pour Fred. Nous allons passer à la question multipoint, elle est très simple. Ouf. Mais nous n'allons pas la jouer en enchère, on va la jouer
à la queue
en tour de table. Donc un point à chaque bonne réponse. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 réponses possibles. Sur les Cavs 2016 champion NBA, c'est Geoffrey qui démarre.
Kyrie.
C'est quoi, mais tu Irving.
Bah, tu m'en donnes un. Et puis après, on passe à l'autre.
Donnez-moi l'effectif des Cleveland Cavaliers en 2016 qui ont été champions NBA.
Un point pour Jojo.
Pose-là la question.
LeBron
James, c'est bon. Allez, un point pour Fred, à toi.
Tristan Thompson.
Non, le Ray, c'est bon. À toi, Jojo.
Et je suis déjà en train de
chercher. Okay, ouais. Il y en a plein des très connus.
Ouais, je sais.
Il y en a plein. Hein. Alors, franchement.
C'est catastrophique.
Il y en a 2016. Un, deux. Trop. Allez, deux évidents.
Qui a été proposé? T'as dit quoi?
Et trois ou quatre.
T'as dit quoi?
Alors, ont été donnés Irving, LeBron James et Tristan Thompson.
Ok.
Ouais, je vais ralentir le rythme. Je vais passer.
Mais okay. Non.
Bon, à moi, Kevin Love.
Bon, bah tant pis pour toi. Hein. Kevin Love, c'est bon. Hein. Kevin Love, tu l'avais, Kevin Love. Ouais, Jojo, t'as pas cru en toi.
Bien sûr.
Moi, je suis perdu.
C'est les arbitres.
Tu prennes ta chance.
Ouais, bien sûr.
À toi, Steph.
À moi.
À toi, Steph.
Cleveland,
ouais.
Cleveland 2016, c'est ça que tu m'as dit?
Ouais.
Oh là là.
Ah, il y en a.
Ouais, je sais qu'il y en a à Cleveland 2016. Allez,
Steph. Kevin,
allez, Steph. Moi, come on!
Je
donne des indices ou pas? Non, je donne pas d'indices. Pas d'indices.
Ah, mais non, déjà, je galère.
Tu galères déjà, là?
Ouais.
Franchement.
En fait, je trouve plus les noms. Alors, j'ai tout dans ma tête.
Mais t'as raison, je cherche ton téléphone.
J'ai tout perdu.
Il y en a au moins un que vous devez trouver, je pense. Et il y en a 1, 2, 3, 4. Qui sont trouvables. Et
ah oui,
même
ils sont tous trouvables.
Et si je t'en mime un, ça compte ou non? Parce que j'arrive plus à trouver son nom.
Non, mais il y en a un que tu dois sortir là, Steph, tout de suite. Maintenant, là, t'as plus que 10 secondes là.
Cleveland 2016.
Cleveland 2016, il y a un élément important.
Ils sont menés 3-1, machin.
Un élément important.
Mais oui, mais je sais, oh putain, mais ça m'échappe. Je suis pas dans mon émission.
Quoi. Bon, bah tant pis, hein, c'est mort. Hein. Alors, Fred, si tu m'en trouves deux de plus, t'as gagné le quiz. Hein, donc, ça vaut le coup. Hein.
Mais je sais plus, il y a son pote qui est débile, qui se rappelle plus qu'il faut aller marquer le panier.
Ah, mais oui,
exactement, c'est lui.
J.R. Smith.
Ah ouais, mais là, t'as spoilé quand même. Parce que t'es plus dans la course, tu le donnes à la place de Fred.
Oui, bah, on va lui accorder.
Allez, on lui accorde.
Débile qui fait pas la passe, qui fait la passe plutôt que shooter.
Tu sais quoi, on te l'accorde. Si tu me trouves un nom de plus, t'as gagné. Mais par contre, si tu me trouves pas un nom de plus, je retire le point de J.R. Smith.
Bah, t'es dur.
Bah non, mais il l'a donné avant toi, tu l'avais pas.
Qu'est-ce que t'en sais que j'aurais pas trouvé? Tu lui as laissé au moins 10 secondes pour réfléchir, moi pas.
Mais parce que t'avais le bon truc, c'était J.R. Smith, tu l'avais, t'as juste pas retrouvé son nom, mais t'as pas retrouvé son nom. Donc maintenant, tu gagnes ou tu perds, c'est comme ça, c'est la vie, et il y a des mecs à trouver. Il y a des mecs à trouver, des vétérans notamment. Dans cette équipe. Bon, tu les as pas, j'ai l'impression.
Non.
Alors, je lui donne pas d'indice. Je lui donne pas d'indice, tant pis pour toi.
Donne une indice.
Un indice, mais pas facile.
Shumpert,
non.
Iman Shumpert, ouais. Exceptionnel, Fred. Bravo, tu m'as sorti Iman Shumpert. Il y en avait des beaucoup plus faciles.
Mais impossible.
Il y a Richard Jefferson.
Oh, oui. Ah oui.
Bah, il y a Maurice Williams. Il y a Channing Frye. Matthew Dellavedova.
Dellavedova.
Et après, c'est plus dur.
Oui.
James Jones, Sacha Cohn, je ne sais pas qui c'est, un pivot russe. Jordan McRae, Timofey Mozgov aussi.
Mozgov.
C'est plus dur à trouver.
Non, il était facile, Mozgov.
Et on a fait le tour. Et donc, j'accorde la victoire à Fred. Bravo, Fred.
Bravo, Fred.
Merci. Tu es champion NBA 2016.
Génial.
À la semaine prochaine. RMC Basket Time.